avec lesquels je travaille me diront, écoutez, sans maintenant la maladie d'Alzheimer, ou du moins la sénescence cérébrale du type Alzheimer vous guette, alors vous feriez mieux de vous retirer à la campagne. Jusque-là, il n'y a pas de raison que je m'arrête, parce que je suis motivé à comprendre ce que je suis, à comprendre ne serait-ce que le vieillissement. Je suis motivé à comprendre le phénomène vivant, grosso modo, quoi, en gros. Et que ça m'intéresse suffisamment pour continuer à travailler avec une équipe de gens qui eux-mêmes sont motivés. Je complète quand même par la prise journalière depuis 20 ans d'antioxydants. Je ne sais pas si c'est ce qui a fait que, effectivement, je n'ai pas trop vieilli et que je suis encore... Et pourtant, je fume, je bois... Bon, je ne suis pas alcoolique, enfin, je bois mon whisky et... bon, je n'insiste pas sur le reste...
Ce qui est très surprenant aussi lorsqu'on vous rencontre, c'est que vous avez 74 ans et pourtant très peu de cheveux blancs.
Alors ça, alors là, personne ne veut croire que je ne me teins pas les cheveux. Et ça, ça me vexe parce que si je me teignais les cheveux, ce serait que je veux donner aux autres une image qui n'est pas celle que je suis. Et je suis trop honnête finalement pour admettre cette espèce de tromperie. Et je vous assure, je ne me teins pas les cheveux.
Il a toujours été le petit, moi je pense, le petit canard de la couvée médicale et de la recherche. Et le monde scientifique l'a très souvent tenté de le marginaliser, français du moins. Alors entre une tentation tout à fait personnelle d'être un peu à la marge, qui permet d'ailleurs d'exister par soi-même, tu peux c'est une façon d'être et de se distinguer, de se singulariser, mais en même temps gentiment repoussé par une bonne partie de l'establishment, on a Henri Laboré aujourd'hui.
La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être.
Ce que j'aime bien dans le bureau du professeur, de Laboré, pardon,
quand même,
dans le bureau de Laboré, c'est le joyeux foutoir.
Voilà.
Parce que ça, c'est un signe de très bonne santé intellectuelle, à mon avis.
Merci.
En plus, nous expliquer que l'organisme humain était un tout. Et je crois que ce bureau, c'est ce symbole-là, c'est que c'est un tout. Tout se mélange, tout s'implique, et finalement, la vie, c'est ça.
M'accueille dans son cœur et me préfère à elle.
Vous connaissez des poésies comme ça par cœur?
Oh là, des tonnes, alors, ça.
Ah oui?
Des trucs que j'ai jamais appris, d'ailleurs. Je les ai aimés quand j'étais jeune, entre 18 et 22 ans, et je les ai lus, relus, et maintenant je me les récite tout seul dans la bagnole quand je m'emmerde dans un... dans un embouteillage.
Vous avez une mémoire prodigieuse, alors?
Non, je ne pense pas, non. Et j'ai une excellente mémoire qui est une mémoire visuelle, alors celle-là est une mémoire sonore. C'est deux choses complètement différentes, parce que la mémoire visuelle me sert à travailler tous les jours. Dès que je lis quelque chose, je dessine. Je ne vous mens pas, tout est en petits dessins, vous voyez, il y a des petits dessins partout. Je dessine et je vois, alors que ma mémoire, j'ai compris ça très tôt, dès que j'ai commencé ma médecine, en anatomie en particulier, tout se dessine. Et j'avais des amis et des camarades qui apprenaient les pages du bouquin du Testu. Il y en avait 6 ou 7 comme ça. C'est impossible à se souvenir. Alors que 40 pages de texte, ça peut se dessiner. Et à ce moment-là, vous avez devant vos yeux une image et vous la décrivez. Donc ça facilite terriblement les efforts de mémoire. Et même toute la pathologie et la médecine, je l'ai dessinée. Mais à côté de ça, il y a une mémoire qui est une mémoire auditive, qui passe sans doute par le cerveau droit, qui est celle où je ne vois rien. C'est le souvenir de sons qui Et c'est une mélodie, et la poésie, c'est une musique.
Mais c'est même pas seulement une musique, c'est aussi une compréhension du sens du poème.
Oui, mais pour mémoriser, on mémorise absolument pas le sens. Le sens touche l'affectivité, mais c'est la musique qui permet de mémoriser.
Moi qui avais l'impression que lorsqu'on comprenait quelque chose, on le retenait mieux.
Qu'est-ce que vous appelez comprendre ? C'est-à-dire associer à quelque chose que vous connaissez déjà. C'est ça, à comprendre. Comprendre, d'ailleurs, étymologiquement, c'est comme prendere, c'est prendre avec. Alors il faut associer, effectivement. Quand on peut associer quelque chose avec une chose déjà connue, apprise et mémorisée, on se souvient mieux que si c'est quelque chose de complètement isolé.
Et un comportement d'inhibition.
Moi, je le reconnais très humblement. Je ne comprends pas tout ce qu'écrit Henri Laborde.
Denis Bourgeois.
C'est vrai. Mais ça ne m'empêche pas de le publier. Et a fortiori, je dirais même que c'est un avantage parce qu'au moins, je ne vais pas décider qu'il a raison sur tel point et tort sur tel autre. Il n'y a pas d'exclusion. J'aime l'auteur Henri Laborie, grâce à le public. Voilà. C'est ce qui donne. Alors, ce qui fait que nous avons des relations d'individu à individu et non c'est pas vrai. De puissance éditoriale à puissance écrivain. Enfin.
Je pense qu'effectivement, ce qu'on trouve chez Grasset, c'est un contact personnalisé. Il considère que jusqu'ici, mon Dieu, je me suis vendu. On ne va pas me dire « Oh, vous dites ça, monsieur, on pourrait faire 3 livres avec votre livre. »
Oui, c'est ça qui est intéressant et qui est amusant, d'ailleurs. Le prochain livre d'Henri qu'on sort, là, dans quelques jours, quelques semaines, « La vie antérieure », on pourrait le considérer comme un vilain salmigondi mélangeant une autobiographie personnelle et un traité scientifique. Une autobiographie à la fois personnelle et scientifique. Moi, au contraire, je trouve que c'est ça qui est formidable. Et c'est peut-être, ça pourrait horrifier certains confrères. Nous, on patauge avec délice, là, parce que, sans faire de psychanalyse de bazar, je trouve qu'un scientifique est difficilement dissociable de sa vie familiale et une personne ne peut pas être comprise sans prendre en compte aussi tout son travail scientifique, s'il est scientifique, enfin tout son travail professionnel.
Il y avait déjà au moins 5 ou 6 éditeurs qui m'avaient demandé d'écrire mes mémoires. Je m'étais toujours refusé en disant que je commence d'ailleurs l'introduction de celui-là en disant je sais que je veux dire que je suis le plus beau, le plus gentil, aimez-moi. Bon. Et donc, on n'est pas forcé de me croire. Bien, c'est une vision que j'ai de moi, et les autres ne sont pas forcés d'y participer. Par contre, il y a une partie scientifique. Bon, ben, celle-là, il y a la bibliographie à la fin, on peut contrôler si on veut. Ça ne se discute pas. Bon. Et donc, un monsieur est venu me trouver et m'a dit « On serait contente de publier vos mémoires scientifiques ». Comme j'avais toujours refusé d'écrire ses mémoires, il m'a dit, si vous ne les écrivez pas vous-même, c'est pas après vous qu'on les écrira. Bon, ça m'a touché un peu. J'ai dit, oui, on vieillit et que je vais peut-être casser ma pipe prochainement, j'en sais rien. Je me suis dit, bon, on va y aller, quoi. Mais je ne pouvais pas raconter ma vie scientifique, qui a l'air extrêmement, comment dirais-je, papillonnesque. Quand on voit ce qu'on a pu faire depuis, ce que notre groupe a pu faire depuis 30 ans, on se dit qu'il a touché à tout, ce gars-là. Alors, il faut bien expliquer pourquoi, d'abord, on a touché à beaucoup de choses, mais pourquoi aussi, c'est parfaitement logique dans l'évolution de la pensée. Et il faut dire aussi qu'on n'est pas scientifique. On n'est pas un beau jour biologiste des comportements. Hein ? Il y a toute une vie avant qui fait que... Et c'est pour ça que ça s'appelle la vie antérieure, et que ça commence... part en exergue un poème de Baudelaire qui s'appelle « La vie antérieure » parce que j'ai vécu sous des tropiques comme Baudelaire et qu'il y a tout cet attrait de la mer, etc. Ça explique pourquoi bon, j'ai pas été élevé, mais enfin, j'ai eu pendant quelque temps un forçat à ma disposition qui me portait sur ses épaules, qui m'adorait, bon, et ses esclaves noirs sont un premier odeur, etc. On peut retrouver, si vous voulez, ça. Et finalement, tout ça, ça amène progressivement un individu complètement engrammé par son milieu, avec tout le conformisme de son milieu, de 2 familles d'ailleurs, qui ne s'entendaient pas, parce que la famille de mon père était une famille vendéenne, depuis nombreuses générations, et qui s'était élevée à la force des poignets, si l'on peut dire. Je ne sais pas si au Moyen-Âge, laborie, ça voulait dire fermier, d'ailleurs. Et la famille de ma mère était une famille aristocratique, déclinante, et qui n'avait plus un rond, mais qui avait un blason, et qui était persuadée que du moment qu'ils avaient les cieux en bleu, eh ben, ils étaient mieux que les autres. Avec ce détachement, justement, d'ailleurs, du fait que... On peut être misérable, c'est ce qui mon grand-père maternel est mort misérable, mais on peut être misérable et considérer que, mon Dieu, l'argent n'avait aucun intérêt parce qu'on avait du sang bleu. Et finalement, c'est cette opposition entre ces deux familles qui ont finalement créé ce qu'on appelle une personnalité, ma personnalité, et qui m'ont fait être dubitatif sur toutes ces valeurs auxquelles j'ai cru jusqu'à l'entrée à l'école de santé navale.
Vous êtes vendéen d'origine, mais vous êtes né en Indochine.
Oui, la première colonie qui a fait, pour laquelle a été désigné mon père, qui était médecin colonial, c'était l'Indochine. Et je suis né à Hanoï. J'en suis revenu à l'âge de 2 ans, en pleine guerre, bien sûr. Puis ensuite, j'étais en Guyane, ou Martinique, Guadeloupe, Guyane, où mon père est mort, du tétanos, à l'âge de 31 ans. Moi, j'en avais 5.
C'était important pour vous que vous soyez orphelin à 5 ans?
Je crois que c'est même fondamental, en ce sens que ma mère ne s'est pas remariée, elle m'a parlé tout le temps de mon père, qu'elle est couverte de toutes les qualités, avec un caractère difficile, et enfin, il était musicien, il était poète, enfin, bon. Et j'ai pas eu à tuer mon père, suivant la formule freudienne. Il ne m'a jamais pas gêné, et au contraire, il a constitué pour moi une image, un modèle. Ma grand-mère me faisait réciter après notre père et je vous salue Marie tous les soirs. Papa, tu seras ma religion et mon modèle. On n'était pas très orthodoxe. Mon Dieu, donnez-moi le moyen d'accomplir ma promesse. Et j'ai été élevé dans ça. Alors, mon père était... Il fallait que je refasse mon père. Si bien que j'ai jamais compris, d'ailleurs, qu'il était mort. Et finalement, j'ai été mon père. J'ai refait mon père en passant par la même école annexe, la même école principale du service santé de la marine. Et à 31 ans, je me suis aperçu que j'étais plus vieux que lui, quoi. Mais enfin, il a été pour moi un idéal, à une époque où je n'avais pas d'autre idéal que celui-là, quoi. Parce qu'après, la vie vous apprend tellement de choses qu'on peut en changer. Mais j'y pense encore, oui, cette photo est là, et j'y pense encore, pas tous les jours, mais presque, et il a comblé ma vie, c'est vrai.
Ce qui veut dire que vous n'avez pas éprouvé le besoin d'avoir... un père spirituel, un autre père spirituel?
Ah non, pas du tout. Je me suis toujours révolté contre le paternalisme intellectuel. J'ai toujours réagi contre tout ce qui pouvait être l'aliénation à des idées ou à des concepts. Non, jamais. J'ai pris un peu partout, ça c'est vrai. Aussi bien parmi les scientifiques que les littéraires ou les peintres. Mais je n'ai jamais pu m'accrocher à un idéal qui ne soit pas celui que je me construisais et qui m'aurait été imposé par un autre, ça sûrement pas.
Sciences biologiques et humaines ayant montré leur efficacité dès lors qu'elles prenaient pour base les sciences de la matière et les lois structurales, il est possible que l'homme de demain abandonne les mythes sécurisants, la soumission fataliste au déterminisme incompréhensible, la fuite dans la drogue. Cette dernière, chez l'homme conscient, pourrait peut-être même favoriser l'imaginaire sans le conduire à la dépendance. Ainsi, ce qui risque de sauver l'espèce humaine, ce n'est peut-être pas tant le fait que l'homme soit un animal qui fait des outils, mais bien plutôt qu'il est un animal, le seul sans doute, qui sache qu'il doit mourir.
Il y aura bien qu'habitait mon grand-père.
Qu'est-ce qui vous a fait vous orienter tout de même vers la recherche biologique? Vous avez été médecin, vous avez été chirurgien.
Bon. J'ai fait un internat des hôpitaux civils de Bordeaux, j'ai fait ensuite la guerre. J'ai fait de la chirurgie, j'ai continué, j'ai été chirurgien des hôpitaux en 1948. Et puis, j'avais été très impressionné par les travaux de Lorich, René Lorich, qui était un des seuls grands chirurgiens français de ce siècle, et qui était un chirurgien physiologiste, finalement, qui a été le père de l'étude sur la douleur, et qui mettait tout sur le compte du système nerveux végétatif, celui qui règle l'activité inconsciente de nos viscères et de nos vaisseaux. Et lui, pour bloquer ce système, utilisait les injections de novocaïne, le blocage des ganglions par la novocaïne, qui est un anesthésique local. Et il disait que le choc était dû à une activité du système sympathique. Et le choc, pour quelqu'un qui a fait la guerre, puis même après la guerre, avec tous les blessés qu'on pouvait avoir un peu partout, était un problème qui est extrêmement grave. On faisait tout ce qui était écrit, tout ce qu'il fallait faire, puis les gens mouraient quand même. Alors il y avait le choc traumatique, bien sûr, le choc de guerre, et puis le choc opératoire, et les grosses interventions où on avait fait tout ce qu'il fallait, puis les gens mouraient. Pourquoi ? Et à l'époque, on commençait à parler du fait que le système nerveux agissait par ce qu'on appelle des médiateurs chimiques, c'est-à-dire des molécules, des substances sécrétées par les nerfs, enfin, synthétisées par les nerfs, et libérées au niveau des synapses, c'est-à-dire des contacts entre un neurone et un autre neurone, et permettant le passage de l'influx nerveux grâce à une médiation chimique de l'influx nerveux. Et j'essayais de... non plus de me servir de novocaïne pour infiltrer les ganglions ou les terminaisons nerveuses, mais d'injecter des molécules qui étaient connues comme bloquant certains médiateurs chimiques. Pour voir, alors j'ai expérimenté sur le cobaye d'abord, et puis chacune d'elles utilisées isolément n'arrivait pas à bloquer les processus de choc. Mais lorsque je les mélangeais, j'obtenais une certaine protection. Alors j'ai appelé ça des cocktails lytiques. Lytiques parce que la lyse, ça veut dire le blocage d'une action. Puis je me suis aperçu que d'abord, mes malades étaient protégés, effectivement, contre mon agression chirurgicale ou contre l'agression traumatique qu'ils avaient subie. Et d'autre part, je me suis aperçu que j'ai plus besoin d'anesthésiques pour les anesthésier. C'est-à-dire que, avec des anesthésiques extrêmement légers, alors j'ai appelé ça anesthésie potentialisée. Et puis ça s'est appelé par la suite, avec les auteurs belges, la neuroleptanalgésie. D'autre part, ça m'a montré que ce qu'on appelait l'anesthésie, c'était un mot, et qu'on pouvait la disséquer. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une protection contre le choc, sans sommeil. On pouvait être, parce que mes malades étaient pratiquement éveillés, on appelait ça anesthésie vigile d'ailleurs. Qu'on pouvait bloquer la douleur et faire dormir, c'était trois choses différentes. Donc ça déjà notait que, plus tard, j'ai compris qu'il y avait une chose qui était corticale, l'autre qui était, nous disons, limbique, et puis la première, celle de la protection, était hypothalamo, hypothalmo-hypophysaire. Bon, j'entre pas dans les détails. Mais l'état de mes malades, avant l'intervention, quand ils étaient préparés avec ces cocktails lytiques, était tellement détendu, tellement... ils n'avaient plus peur, ils n'avaient plus d'appréhension. Je me suis dit... puisque les malades mentaux réagissent, du moins disait Cellier, qui est un vieil ami qui est mort il y a 6 ou 7 ans maintenant, réagissent de la même façon sur le plan de leur équilibre biologique aux agressions psychiques, psychosociales, que les gens à qui ont fait un traumatisme, peut-être que ça pourrait être utile en psychiatrie.
Vous avez inventé les premiers neuroleptiques.
Je n'ai pas inventé, j'ai montré que leur action est indiquée dans quelle orientation on pouvait les utiliser. J'ai inventé mes drogues, parce qu'on a tellement discuté ma participation à ça que...
En même temps, est-ce que vous n'avez pas été très critiqué, parce que c'est un médicament dur, Le neuroleptique, c'est quelque chose de terrible.
La plus terrible. Quand vous croyez qu'un maniaque agité, agressif et délirant, c'est pas quelque chose de terrible aussi. Les gens ont la mémoire courte. Quand j'ai commencé quand j'étais jeune médecin et que j'étais de garde, quand on passait dans un service de psychiatrie, dans les hôpitaux militaires où j'étais, on avait un revolver avec soi, et puis deux, on prenait les infirmiers les plus solides, avec des matraques, parce que rentrer dans une salle d'agité, j'aime mieux vous dire que on n'en sortait pas vivant à tous les coups. Actuellement, ça n'existe plus. La camisole chimique, je veux bien, mais vous ne pouvez, quand un type n'entend pas, il n'entend plus. Votre langage n'a plus de signification pour lui. Le rendre, non pas normal, mais on peut l'atteindre à ce moment-là par un discours, par l'échange de paroles, essayer de savoir ce qui se passe dans son crâne et qu'il vous le dise et de s'intéresser à lui, c'est quand même important. Et ça, c'est les psychotropes qui l'ont fait tout de même. Mais remarquez que, vous savez, je ne crois pas spécialement à la pharmacologie. Les grands progrès de la médecine moderne, c'est de la médecine d'urgence. Pour me faire comprendre, je dis toujours, et je le répète une fois de plus, que si j'avais une pneumonie, j'aimerais bien qu'on me fasse de la pénicilline. Mais pourquoi est-ce que je fais une pneumonie? C'est qu'à partir d'un certain moment de mon existence, mon système immunitaire a été incapable de me défendre contre le pneumocoque. Il était déprimé. Pourquoi était-il déprimé? Ben, en général, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, on est bourré de cortisone. La glande surrénale sécrète de la cortisone. Pourquoi sécrète-t-elle la cortisone? Ben parce que le cerveau, enfin du moins ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien, l'a provoqué cette libération de cortisone parce que on était mal dans sa peau et que le comportement de l'individu, de mon comportement par rapport à mon environnement social, était incapable de contrôler cet environnement. Et on a, à ce moment-là, tout un syndrome qui s'établit dans ce que j'appelle l'inhibition de l'action, qui maintenant commence à être quand même reconnu, depuis le temps que je le répète. Et finalement, on peut dire que pratiquement toute la pathologie est en rapport avec les relations de l'individu avec son environnement. Donc la pharmacologie va répondre simplement au plus pressé. Et puis, les années ont passé, je me suis dit, finalement, supposé qu'il n'y ait pas eu les psychotropes, il y aurait peut-être eu un ras-le-bol plus précoce, qui serait arrivé plus vite, et que les gens se seraient posés des questions qu'ils ne se sont jamais posées, parce que le type qui va trouver son médecin le samedi, je suis fatigué, docteur, je n'endors plus, etc., on lui fout quelques hypnotiques et quelques antidépresseurs, et il va refaire ses roulements à billes le lundi matin. Bon. Et rien ne se passe. Les structures sociales ne peuvent pas changer. Et peut-être que, effectivement, l'arrivée des psychotropes a bloqué cette évolution possible vers un autre type de comportements sociaux. Moi, je ne me sens pas responsable, parce que si vous aviez une société plus vivable, les gens n'auraient pas besoin de prendre des psychotropes. Et puis c'est là où je me suis dit, peut-être que s'il n'y a pas eu les psychotropes, c'est de la cybernétique. Il y aurait peut-être eu un changement profond du comportement des hommes.
Depuis 30 ans, Henri Laborie passe toutes ses journées dans son laboratoire d'œtonologie, ou d'agressologie si l'on préfère, qui se trouve à l'intérieur de l'hôpital Boussicault. Ce laboratoire est en fait très particulier car il est totalement indépendant de l'hôpital. Il est régi par une association à but non lucratif et ne reçoit aucune aide de l'État. Une quinzaine de personnes, dont Madame Baron, y travaillent. Elles sont payées grâce aux droits d'auteur des brevets.
C'est la cuisine d'ici, ils servent ça à manger en même temps.
Cuisine rapide à midi.
Cuisine rapide à midi, lavage de la vaisselle. Enfin, de la verrerie, de la vaisselle. Ici, c'est le laboratoire de physiologie.
Où est la souris?
Ah, là, elle est au repos. C'est le lundi. Non, parce que le lundi, il y a le syndrome des animaux, parce qu'ils n'ont pas été utilisés le week-end. Alors, ils ont une sensibilité accrue au contact, alors on ne peut pas trop travailler dessus, ça fausse les résultats.
Donc, mais pourquoi est-ce que le mardi...
Le mardi, si vous voulez, ils sont habitués à la présence, au bruit des gens, vous pouvez les manipuler. Donc il y a une habituation au contact et à ce moment-là, l'animal a repris un peu son rythme.
Bon, il est là,
lundi, c'est pas bonjour. Voilà l'animalerie. Alors l'animalerie est climatisée, bien entendu.
Alors ceux-là, ce sont des rats blancs.
Ce qu'ils ont de particulier. Des rats blancs, mâles. On travaille toujours sur des mâles parce qu'il n'y a pas de problème d'ovulation, de cycle, tout ça.
Vous les prenez parfois de ces rats
dans les bras.
Vous les touchez
dans les mains. Oui, vous les ouvrez. Il faut bien les toucher. Vous savez, ce sont des rats d'élevage. Hein. Je ne vous dirai pas que vous allez faire ça avec des rats d'égout ou des rats des champs. Non, vous vous ferez sûrement mordre. Mais ces rats-là sont très, très coopérants. Ils sont mignons comme tout.
Ils sont coopérants, mais en même temps, ils sont voués à mal terminer quand même.
Bah, c'est leur but. C'est désolant, mais je ne pense pas qu'on puisse passer de, malheureusement, d'animaux en recherche. Hein. On en apprivoise toujours quelques-uns, hein. On en avait apprivoisé un en particulier quand on a tourné le film Mon oncle d'Amérique avec René. Et on l'a gardé longtemps, il est mort de sa bonne mort. Bon, je vais vous emmener maintenant en biochimie.
Ces chers amis des bêtes qui périodiquement inscrivent sur les lits les murs de l'hôpital à la peinture rouge. Laborie assassin qui me réveillait quand je n'étais pas sur la liste rouge à 2h du matin. On aura ta peau, salaud, etc. Bon.
À ce point-là.
Ah oui. Oh ben ça, et je reçois des lettres d'insultes en plus. Bon. Elles ne se rendent pas compte que la façon dont on traite un animal, l'affection dont on l'entoure, c'est pas simplement le faire souffrir ou pas. C'est que l'anxiété que l'on peut créer chez lui fout par terre tous les résultats biologiques qu'on peut faire. Donc non seulement on ne doit pas leur faire mal, mais encore, on doit les traiter avec le plus de gentillesse possible. Sans ça, ça ne veut plus rien dire, ils font des perturbations biologiques. Mais deuxièmement, ce que je crois, c'est que les pires tortionnaires, ce sont eux. Moi, je suis révolté quand je vois qu'on fait châtrer un chat ou une chatte, parce que la libido de ce malheureux animal, quand il est en chaleur, gêne son propriétaire. Hein, et on appelle ça être ami des bêtes. Puis rien qui me révolte plus quand je vois un monsieur bien sous tout rapport tenant son chien en laisse et quand dans le square il lui enlève son collier et que l'autre va sentir les fesses de la chienne d'à côté. Ici César qui dit parce que c'est pas bien dans la société bourgeoise du XXe siècle alors que dans la société des chiens c'est tout à fait bien porté d'aller ressentir le derrière d'une femelle quand on est un mâle et inversement d'ailleurs. Bon. Ce type qui en général sa femme lui reproche un avancement hiérarchique un peu trop lent et salarial, dont les enfants lui disent « c'est un vieil andouille, maintenant lâche la pédale parce que tu n'as pas lu Trotsky, ni Bakounine, ni Lénine, ni même Kierkegaard », dont le patron considère qu'il ne vaut même pas la peine d'être recyclé, ce type qui n'a aucune possibilité de s'exprimer, qui est en pleine inhibition de l'action, le seul moment où il peut dominer, c'est sur son chien, avec sa laisse. Ici César, et qui, alors, bon, ces mêmes gens se refusent en général, ne refusent pas un lapin chasseur ou un homard à l'armoricaine, hein, ça. Et ils donnent quoi à bouffer à leur chien ou à leur chat? Du canigou ronron qui est fait avec de la chair d'un pauvre animal qui n'a pas eu la même chance, et que dont voudrait bien se nourrir des millions de gens à travers la planète qui n'ont même pas de canigou ronron pour leur venir en aide, hein, qui est à bouffer. Et donc, ce type de comportement, je ne le comprends pas, moi. Et je pense qu'il y aurait une façon de le faire comprendre, c'est que le jour où ces gens-là tombent malades, on les soigne sans aucun des moyens que l'homme a mis au point grâce à l'expérimentation animale. Alors, ils verront. Ils crèveront rapidement, parce que tout ce qui est utilisé a été mis au point sur une expérimentation animale.
Bruno Guattari, biochimiste, un des chercheurs du laboratoire.
La Borie a une théorie qui est assez vaste et nous, on a chacun une portion de territoire de cette théorie à explorer. Au niveau scientifique, je pense que c'est un type comme Pasteur ou comme Lavoisier. Ce type-là, on ne se rend pas bien compte de ce qu'ils sont en train de faire. Même lui-même, il ne s'est pas rendu compte au début de ce qu'il faisait. Mais il y en a un comme ça de temps en temps, on ne sait pas pourquoi. Il bosse tout le temps, il arrive à 9h, il s'en va à 7h. Nous, on bosse moins que lui. Grande capacité de travail, comme ça. C'est... Type très ouvert, en plus, très prudent. pas du tout dogmatique. On sait qu'on a besoin des fois de dire « Ah ben, c'est comme ça, ça se passe comme ça », parce que ça nous permet de travailler. Mais ça, on est prêt à le remettre en cause. Après, on n'est pas du tout prêt à le conserver si ça colle plus avec ce qu'on observe. Il a un caractère très fort, très... Mais ça aussi que moi j'admire chez Boris, c'est que c'est un type qui a évolué par rapport à son caractère. Bon, il contrôle son environnement. Il n'a pas envie de se faire agresser parce qu'il va sécréter du cortisol, ça va le faire vieillir plus vite, il n'a pas envie qu'on l'embête. Bon, il contrôle son environnement, ça, il est très fort là-dessus. Puis c'est son fils aussi qui m'a dit... Parce que moi, je naviguais avec la Borique, un marin. On part en bateau. Et, c'est vrai que sur un bateau, il y a le capitaine qui décide, c'est assez important. C'est, et la Borée est très... nous propose de discuter les décisions, mais finalement, décide ce que lui, il a décidé. Et j'en parlais avec son fils avec qui on naviguait. Je lui disais, mais bon, les côtés comme ça, de despote. Il dit, oui, mais tu sais, c'est beaucoup amélioré depuis 20 ans. Il a changé. Avant, c'était un vrai tyran. Maintenant, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme.
On l'appelait l'île de la chaise et du mur des fusils. Il veut dire ce que le médecin a dit. Il y a de cela 50 ans.
À supposer que l'homme parvienne un jour à faire disparaître l'agressivité intraspécifique, absurdité qu'il caractérise, un problème restera. Un problème qui devrait révolter notre notion humaine de justice. Pourquoi, dans l'enchaînement si complexe des systèmes écologiques de la biosphère, toute vie est-elle dépendante d'une autre vie qu'elle détruit? Pourquoi la souffrance et la mort des individus d'une espèce sont-elles indispensables à la vie de ceux d'une autre? Pourquoi cette planète n'a-t-elle toujours été qu'un immense charnier où la vie et la mort sont si étroitement entremêlés qu'en dehors de notre propre mort, toutes les autres nous paraissent appartenir à un processus normal? Pourquoi acceptons-nous de voir le loup manger l'agneau, le gros poisson manger le petit, l'oiseau manger le grain et par le chasseur, la colombe assassinée? Mais aussi pourquoi vivre et mourir? Univers de mon cœur, tu m'exaspères.
Le cerveau paraissait trop compliqué pour qu'on puisse pénétrer, je dirais jusqu'en 1950, pénétrer dans son fonctionnement précis. Bien sûr, on connaissait l'anatomie, si vous voulez, du système nerveux. Mais la façon dont il fonctionnait sur le plan biochimique en particulier, et quand je dis biochimie déjà, c'est tout un monde, on l'ignorait. Nous avons actuellement une cinquantaine de médiateurs chimiques à notre disposition. On en connaissait deux quand j'ai commencé ma médecine. Enfin, il y avait déjà le travail d'un certain nombre d'éthologistes qui dataient d'avant la guerre même, et dont certains ont eu le prix Nobel. Il y a Tibergen, Corinne Lorenz, etc. Les éthologistes étaient ce qu'on appelle des behavioristes. Ce que ça veut dire, ça veut dire que c'était justement l'étude des comportements animaux et humains. Mais on avait l'impression, et d'ailleurs actuellement les grands congrès que je peux avoir les comptes rendus d'éthologistes, il semble bien que ça ne les intéresse pas ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que vous voyez très peu dans ces réunions, très peu de travaux émanant de neurophysiologistes ou de biochimistes. Et ils prétendaient qu'en regardant un comportement, on pouvait savoir comment ça se passait dans le cerveau. En réalité, je prends un exemple, c'est-à-dire que dire que l'animal est de façon innée agressif, et que l'homme étant un animal, il est forcément de façon innée agressif, ça mène à la plus belle erreur de compréhension des comportements animaux et humains.
Pourquoi?
Ce que vous avez réfléchi, c'est une chose banale, c'est que on n'aurait jamais eu de loup, à partir du loup ou des chiens domestiques, si l'animal était de façon innée progressive. On n'aurait pas eu nos braves bœufs ou nos braves taureaux qui se baladent dans la prairie. Et on n'aurait pas fait de domestication si l'animal, au départ, était agressif. Et on a confondu les différentes agressivités. L'agressivité prédatrice, évidemment. Mais est-ce qu'une ménagère qui va chercher un beefsteak chez le boucher, elle est agressive et pourtant elle n'en veut pas au bœuf? Bon, mais elle est forcée de vivre. La lionne qui saute sur une gazelle est agressive par rapport à la gazelle, mais elle est prédatrice. Or, chez l'homme, l'agressivité est une agressivité compétitive. Elle n'est que compétitive. Il y a une agressivité défensive, bien sûr, quand on vous fait mal, vous réagissez. Mais il ne faut pas confondre ces différents comportements, bien qu'ils soient semblables. Et puis d'autre part, le système nerveux de l'homme, on commence quand même à savoir ce qu'il distingue du cerveau de l'animal. Or, ne pas savoir comment ça se passe là-dedans, savoir ne pas imaginer que les lobes orbitofrontaux, ne serait-ce que ça, qui sont la seule particularité anatomique et physiologique de l'homme par rapport aux autres espèces animales, les lobes orbitofrontaux n'ont rien à faire dans un comportement, c'est plutôt curieux, vous comprenez bien. Donc, les éthologistes nous ont apporté quand même un monceau de travail scientifiquement précis et valable sur les comportements. Mais il restait à savoir comment ces comportements pouvaient être supportés par un cerveau et un système nerveux. Je dois dire que c'est à partir de la chlorpromazine, c'est à partir de l'étude neuropharmacologique du cerveau que l'on a fait des progrès considérables dans la connaissance du fonctionnement cérébral. Parce qu'on s'est dit, à partir de où on a vu une molécule chimique agissant sur le cerveau, on s'est dit, peut-être que